Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour les copains, ça me fait plaisir de vous revoir, ça me fait plaisir de vous savoir, nous écoutant religieusement le Ghetto Blaster calé sur l'épaule. Ceci est le premier épisode de l'émission Focus Store en 2014. J'espère que vous avez profité de la trêve de Noël pour nous réécouter et piocher de l'inspiration pour vos cadeaux. Nouvelle année pour le podcast du magazine Focus Vif avec toujours la même équipe qui gagne, composée aujourd'hui de Laurent Raphaël, le Big Boss, d'Isaline Parisis qui gère les pages littéraires du magazine et Laurent Aubresse qui s'occupe des pages musique, que des grands chefs pour ce saison 2 épisode de 6. Bonjour tout le monde.
Salut.
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 Alors je vous rappelle le principe de l'émission pour les distraire. On s'empare des gros morceaux culturels du moment et on en débat entre spécialistes et profanes, tous professionnels de la critique, pour vous inviter au bout du compte à vous faire votre propre opinion. Ce vendredi, on parle du film Nymphomaniac de Lars von Trier, de la série Tunnel, du nouvel album de Sharon Jones et du livre Événement de Donna Tartt, le Chardonnay Clap de début. C'est parti.
The only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colours when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin.
Nymphomaniac, le nouveau film du savant fou du cinéma danois Lars von Trier, n'est qu'une première partie, un premier volume, il y en a deux de prévus. Une réputation sulfureuse précédait sa sortie, on disait que c'était du porno, mais en fait on n'en saura rien, en tout cas pour l'instant, parce que Lars von Trier a dû solidement couper dedans et qu'au final il subsiste plus ou moins une scène où on voit un clitoris et une autre où on voit un pénis, enfin rien de très foufou, rien de très érotique surtout, puisque dans Nymphomaniac la chair est triste et la chair est un peu vaine. La nymphomane présupposée c'est Joe, joué par Charlotte Gainsbourg, couchée inconsciente dans la rue après ce qui ressemble à un passage à tabac et recueillie par Seligman, c'est l'acteur suédois Stellan Skarsgård. Lui bien dit. Joe qui va raconter son histoire à un inconnu, à cet inconnu, une histoire à base d'addiction sexuelle censée faire écho à la passion pour la pêche de son hôte. Alors bon, Lars von Trier n'est pas la dernière déclette hein, quand il s'agit d'empoigner la caméra. Dans un genre art et essai, on peut dire qu'il expérimente des formes plus ou moins intéressantes. Mais alors au-delà de ses slip screens et de ses délires oniriques, je trouve que le film manque quand même singulièrement de profondeur et se perd dans un verbiage à la fois pompeux et involontairement drôle. Je me suis énormément ennuyée au cinéma, j'ai beaucoup regardé ma montre. Laurent, Raphaël, est-ce que ça aussi était ton cas?
Pas du tout.
Mais non.
Non, j'ai plutôt adhéré à sa vision, cette espèce de psychanalyse en direct, pour une fois vue d'un point de vue féminin en plus. Je trouve déjà la scène inaugurale, il nous laisse un plan noir et puis on entre dans une espèce d'univers très théâtral qui rappelle un peu Dogville dans la mise en scène. Mm-hmm. Sauf Dogville, c'était encore plus radical, mais on sent déjà la théâtralité assumée, le côté faux, et donc il nous emmène comme si il nous immergeait dans l'inconscient. Et petit à petit, comme ça, il va déflorer ce personnage. Et il arrive toujours, de nouveau ici, je trouve avec pas mal de succès, à explorer toutes les questions morales les plus brûlantes, que ce soit le mal, le sexe, mais avec une profondeur et une complexité qui est à la fois, qui rappelle à la fois par certains côtés Pasolini, dans le côté parfois un peu excessif, et encore moins radical peut-être que Pasolini. Et puis une espèce de froideur extérieure qui fait plus penser à du Bergman.
Une profondeur, tu trouves que les thèmes sont creusés, enfin que le thème est exploité idéalement?
Ben, je trouve en tout cas qu'il y a de la complexité dans ce personnage qui est à la recherche d'un plaisir, mais on sent bien un plaisir insatisfait puisque plaisir et désir ne vont pas nécessairement ensemble. Quand l'amour vient se greffer dans l'histoire, ben le plaisir s'en va, enfin, donc il y a visiblement un problème. On tourne autour de cette question qui est quand même centrale dans toute la psychanalyse et a priori un peu le centre nerveux aussi de la réflexion dans le monde occidental, on va dire. Et je trouve qu'ici, il arrive à poser ses questions, mais avec une espèce de radicalité qui est la sienne, à savoir qu'il leur enlève le côté parfois un peu sulfureux. Alors, ils peuvent apparaître sulfureux au premier regard, même si, comme tu disais, c'est très loin du porn, comme on avait
c'est
pu le penser.
C'est très, très froid. Hein.
C'est très, très froid, mais cette froideur permet justement d'aller plus loin, peut-être que s'il avait emballé ça dans des choses plus fulgurante et plus choquante pour l'œil. Et bon, la composition, moi je trouve qu'elle est, elle évite le grand guignol, apparemment pas pour toi, mais je trouve que c'est parfois assez littéral dans la manière dont il aborde le sujet. Quand il parle d'un jaguar, on voit un jaguar, etc. Mais les parallèles qu'il fait, par exemple, avec la musique de Bach, qui permettent de mettre en avant justement le côté polymorphe du plaisir qui n'est pas univoque, enfin, toutes ces questions-là, je trouve, sont assez séduisantes et traitées avec pas mal de brio. Et ça rappelle, dans la structure même et dans le fond, un peu le libertinage des romans du 18e, découpage en chapitres, les dialogues qui sont des dialogues aussi de rhétorique, la réflexion se fait à travers le dialogue, le flashback, les allers-retours dans le temps. Ben voilà, tout ça, je trouve, rend le propos assez léger dans la gravité.
Ok, bon, je pense que nous pensons exactement le contraire, c'est amusant. Laurent,
C'est exactement ce que j'ai pu apprécier du film, finalement, m'a tenu à distance aussi, c'est le côté léger et souvent grotesque quand même du truc, quoi. On est dans une accumulation de scènes, c'est presque parfois des sketchs même. Fin.
Oui,
et,
on voit un petit gros avec un petit pénis, oui, et ça déclenche l'hilarité de la salle.
Voilà, et puis les espèces de... Enfin, on va pas raconter le film, les incrustations. Enfin, il joue beaucoup avec les chiffres et tout, il explique les screens en deux, enfin, espèce de jeu comme ça, et je sais pas, il y a plusieurs scènes, oui, qui m'ont plutôt fait rire. Alors du coup, je trouve que ça...
Mais il y en a qui sont volontairement drôles et d'autres plutôt involontairement.
Ouais, mais c'est beaucoup d'humour, quoi. Oui, hein, l'air de rien, c'est quelqu'un qui a de l'humour, alors parfois un peu tangent, mais il est pas que dans la rigueur un peu froide et ultra cérébrale, même
oui,
si c'est
trop collé,
mais c'est quand même, il y a de l'humour, et je crois que ce décalage, ces images un peu choquantes, comme tu dis, un type bedonnant avec son petit pénis, etc. Je pense qu'il vient aussi un peu désamorcer tout ce qui serait parfois un peu trop lourd à charrier dans les thèmes qu'il aborde finalement au fond.
Parce que quand il aborde quand il tourne des scènes un petit peu plus dramatiques, sérieuses, avec le père qui se retrouve à l'hôpital et tout ça, on tombe de nouveau là dans le von Trier typique, très crispant, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est toujours le genre
affreuse.
De... Ouais, tout à fait.
Vraiment, c'est vraiment de la pure pornographie misérabiliste, je trouve.
Oui, complètement. On a filmé dans une espèce de noir et blanc comme ça, mais qui n'a absolument rien d'esthétique ou...
Il joue avec les clichés, enfin les siens à mon avis aussi, je crois que c'est quelqu'un qui a déjà dans la campagne de promo, il a joué là-dessus aussi, et par exemple avec la Shia LaBeouf qui est avec sa mobilette, etc. Ça rappelle quand même aussi toute la mythologie du mâle avec sa moto et qui est en train de caresser sa mobilette et toute la puissance, et puis il vient par une pirouette à la fin détourner le truc, c'est la fille qui remet le carburant et la mobilette part du premier coup. Donc je trouve que ça dépasse simplement une espèce d'éventail de clichés comme certains lui ont reproché. Oui. Je trouve que ça va quand même beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus malin, mais ce que je retiendrai avant tout, c'est que je trouve qu'il y a une psychanalyse en mouvement, en train de se faire, que je trouve assez intéressante vu d'un point de vue féminin.
Qui n'avance absolument pas. Je trouve qu'on accumule les scènes, mais on ne comprend toujours pas très bien quel est son moteur, à part une espèce de misanthropie comme généralisée. Mais finalement, on ne sait pas.
À cause de la sodomie originelle
probablement. Qui était mal exécutée, hein, parce que sinon,
oui.
Bonne sodomie.
Oui, Isaline, t'as rigolé un peu pendant le film.
Non, en fait, j'ai pas tellement rigolé. C'est un film qui m'a vraiment laissé dans une très profonde perplexité. Je trouve la première scène assez incroyable, avec cette neige qui tombe, ouais. C'est au ralenti, hein, l'eau qui, l'ambiance industrielle comme ça, la pluie qui dégoutte dans une ruelle, la musique Rammstein.
Oui, Rammstein.
Ouais, j'ai trouvé ça canon en fait. C'est à peu près la seule chose qui m'a vraiment accrochée dans le film. Rammstein. Je trouve qu'il y a un côté,
Rammstein.
Il y a un côté très très systématique. Je trouve dans, bon voilà, c'est le principe, hein, c'est le principe d'un aller-retour entre voilà cette petite pièce jaune pisseux, voilà qui fait un peu décor de théâtre. D'avant-garde qui est quand même très très glauque le début donc d'une série de flashbacks chapitrés avec un côté effectivement très systématique puisque chaque élément de la pièce de base est un déclencheur au souvenir, hein. Il y a évidemment le gâteau juif qui évoque le Jérôme, puis la tache de thé sur le mur qui évoque un flingue, et donc on part dans quelque chose et je trouve qu'il y a quelque chose de très systématique dans le propos aussi parce que le personnage de Joe veut à tout prix prouver qu'elle est pécheresse, qu'elle est très mauvaise, quasi sataniste, hein, parce qu'elle a un plaisir, enfin un désir en tout cas insatiable. Et puis on a ce personnage de Céline Mann, la vieille intellectuelle puceau, qui est dans une espèce de posture théorique de démonstration et qui tend vraiment à prouver que la perversion est dans la nature, mm-hmm. qu'elle est tout à fait normale et que c'est très bien finalement qu'elle ait ressenti ce qu'elle a ressenti. Et je trouve que, voilà, au niveau de la mise en image, Laurent en parlait, l'incrustation comme ça des chiffres, le côté un peu illustratif, le côté humour, voilà, moi je suis pas du tout rentrée là-dedans, je trouve ça ni vraiment utile, ni vraiment
Mais
drôle.
La scène avec Uma Thurman.
La drôle, scène avec Uma Thurman, c'est ma préférée du film, hein, une oui. espèce d'épouse hystérique et bafouée comme ça qui vient régler ses comptes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment celle que
en mettant
je
ses enfants devant la ligne de front.
Complètement. Mais je trouve effectivement que cette série de parallèles qui fait voilà entre le sexe et la suite de Fibonacci et son dépucelage, alors il convoque la pêche dans une métaphore qui n'a pas de fin. La pêche à la mouche, c'est comme la pêche aux hommes. Hein, la fellation, c'est l'appât finlandais. Il compare le sexe au nombre d'or dans un grand fourre-tout théorique. Donc, il y a le nombre de Pythagore, les icônes byzantines, le choral de Bach, hein, qui est comme l'orgasme. Donc, c'est quand même très, très indigeste, je trouve. Après, sur la nymphomanie...
Il est toujours un peu dans l'outrance. Ça fait partie de son cinéma. C'est pas quelqu'un
je l'aimais. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il s'intéresse à la nymphomanie, et ça, je trouve assez intéressant par ailleurs, c'est que le cinéma de von Trier, c'est quand même une grande entreprise voilà, de destruction, de pulsion de mort. C'est quand même un cinéma qui va vers la cécité, hein, Dancing in the Dark. C'est un des cinémas qui va vers la mort, le jusqu'au boutisme. Et c'était déjà là, par exemple, dans Mélancolia, qui est par ailleurs un film que j'ai absolument adoré, et qui était l'occasion, je trouve, d'un vrai propos esthétique, hein, avec une mélancolie, une lenteur, une poésie apocalyptique.
Mais il y avait la même surenchère esthétique dans Mélancolia qu'on retrouve ici, avec une autre forme, mais c'était tout aussi dégoulinant visuellement et esthétiquement.
Eh ben, pour moi, ça avait quand même plus de cohérence.
Dans l'autre.
C'était plus cohérent et plus harmonieux visuellement. En tout cas, moi, ça me touchait, je trouvais ça beau. Et dans Breaking the Waves, par exemple, c'était également un film chapitré sur une sorte de dérive sexuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y avait quand même une narration très forte, un propos esthétique avec cette ambiance écossaise, 70s et tout ça. Alors, on peut comprendre qu'il s'intéresse à la nymphomanie, à cette idée d'une addiction qui détruit tout, qui détruit la vie d'une femme finalement. Sauf que la charge, je trouve, est un peu faussée dans la mesure où, très visiblement, Von Trier a un problème avec le sexe. Il a un rapport quand même très problématique. Comme tu disais, c'est pas du tout érotique, c'est un sexe triste. Il y a vraiment presque une détestation en fait du sexe.
Ouais, d'ailleurs, il semble apparaître que la nymphomanie n'existe pas, que c'est une manière machiste de qualifier simplement un désir fort de la femme.
Voilà,
c'est pas une pathologie identifiable. Mais est-ce que toi,
sauf que le pardon ici vient dans la bouche d'un homme. Enfin, c'est le confident qui atténue un petit peu sa culpabilité.
Mais rien que de se pencher sur la supposée nymphomanie, c'est déjà une drôle de posture, je trouve.
Bah, c'est quand même un film.
Le sexe est quand même au cœur de toute la mythologie depuis Freud.
Le sexe, oui, mais sous un aspect volontairement vu comme pathologique, je sais pas.
Le plaisir, quoi. Ouais. C'est quand même un film, je trouve, qu'il fait au final parler assez mal de sexe.
Ouais,
enfin, je trouve c'est un peu. Voilà. Et ça tourne, voilà, une espèce de grande expédition punitive, comme ça, une espèce de spirale de noirceur et de violence. Et je trouve que chez Von Trier, il y a toujours ce moment où on se dit non, il va quand même pas faire ça, quoi. Et hop, il le fait, quoi. Et je vais pas déflorer, parce que moi, j'ai eu la chance de voir la deuxième partie. Et c'est vraiment quelque chose qui se radicalise dans la deuxième partie, avec un passage polar assez mal dégrossi. Et à cet égard, voilà, la fin... et sans la déflorer, mais complètement épouvantable dans cette idée de... Enfin, je trouve, voilà, qu'elle est particulièrement ratée, là, tout.
Mais ça résout le mystère du début, ou...
Bah, écoutez, enfin,
on sait pourquoi elle est là, et est-ce qu'elle a trouvé quelque chose au bout de sa quête.
Oui, on sait pourquoi elle se retrouve dans la ruelle avec un œil au beurre noir mal dessiné, dans la suite, oui, ça, on l'a compris, oui.
Bon, bah, alors on va le coter. Moi, je vais lui donner 5 sur 10 à ce film. 5 essentiellement pour la forme, et les 5 que je mets pas, c'est pour le fond. Et toi, Laurent Obrex,
Laurent Obrex donne pareil.
Isaline.
Bah oui, 5 pour la perplexité, quoi.
D'accord.
Bah 8 pour tout le reste.
Ah bah voilà. Bon, bah alors dans les pages de Focus, on peut lire que Louis d'Anvers a très moyennement apprécié l'expérience. Il en dit ceci: moins transgressif qu'attendu et inégal en diable, ce portrait féminin ambigu cherche son point de vue. Fin de citation.
Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. Il y a des injustices dans ce monde que vous ne pourrez bientôt plus ignorer. L'heure est venue pour moi de les révéler. Le tunnel n'est que le commencement.
Le deuxième sujet du jour, c'est la série Tunnel diffusée sur Canal+, la libre adaptation franco-britannique de la suédo-danoise Bronne. À noter qu'elle a aussi été transposée aux États-Unis sur la chaîne FX avec Diane Kruger. Tunnel a été diffusée en novembre en France et le sera chez nous sur BTV dès le 19 janvier. À noter qu'elle est sortie en DVD fin décembre, voilà donc pour les infos pratiques. Alors sur le fond, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord qu'il ne faut surtout pas regarder la version doublée, qui est un véritable supplice.
Oui, c'est un enfer. J'ai commencé par là, j'ai vu les deux premiers en français, c'est affreux.
Surtout quand les acteurs français essayent de combler leur leaping en post-production.
Ah oui, non, ça va pas.
Ça ne va pas. Exactement. En fait, ça ne va pas. Alors, tout part d'un cadavre retrouvé dans le tunnel sous la Manche, la tête en France, les jambes au Royaume-Uni, pour une enquête transnationale. Un cadavre scié en deux. Il y a donc deux morts et il y en aura bien d'autres, avec un tueur en série censé attirer l'attention sur la faillite morale de nos sociétés. C'est Clémence Poésy qui joue la policière française autiste et Stephen Dillane qui interprète son nettement plus sympathique homologue anglais. C'est fait à base de décalage permanent, forcément, entre les frogs et les rose bif de tonalité gris-bleu et de pas mal de glauques. Alors moi, j'ai pas très très bien vu l'intérêt de transposer cette intrigue en France. La Scandinave me suffisait. D'autant que la justesse et le naturel dans l'interprétation des dialogues, ça pose quand même toujours problème dans les séries françaises. Clémence Poésy est à cet égard, je trouve, un cas d'école. Isaline, est-ce que tu as aimé cette série?
C'est vraiment un cas d'école, effectivement. Je sais pas ce qui se passe avec les Français dans les séries, mais il y a vraiment avec la voix quelque
chose...
Ça ne va pas. Elle m'a complètement irritée, mais je vais y revenir. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment...
Pourtant, elle est française, elle a un super anglais, je trouve qu'elle n'a pas du tout d'accent.
Il paraît qu'elle se débrouille mieux en anglais qu'en français.
Mais moi, je l'ai vue juste en français. Hein, ouais. Donc je peux pas...
Parce qu'elle est beaucoup plus crédible dans la version originale où elle parle en anglais. Okay. Pour une Française, donc qu'une Française soit plus crédible en anglais, c'est quand même...
C'est donc ça.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir de cette série. Pas grand-chose à épingler, ni dans le chef des personnages, ni vraiment dans le chef de l'intrigue. Je trouve l'ambiance pas mal. Voilà, cette ambiance du tunnel. On commence avec une espèce d'ambiance filtre un peu verdâche, comme ça, surtout. Un travail au néon. La musique assez omniprésente, parce que, sans doute, on met le paquet, parce que l'attention ne vient pas suffisamment de l'intrigue en soi. Bon, voilà, ça, je vais y revenir. Je trouve l'excellente idée du pitch, mais qui n'est pas leur idée. Le cadavre qu'on retrouve sur la ligne médiane entre France et Angleterre. On se dit, on va jouer sur un peu les différences culturelles, on va voir comment ça se passe au niveau de la collaboration. Et donc, ces deux enquêteurs aux différences criantes qui reçoivent l'ordre de travailler ensemble, c'est effectivement une excellente idée. Et ça prêtait bien le flanc à une adaptation, au final, dans chaque pays ou chaque frontière. Et ce qu'en fait la série française, après, je trouve c'est très pauvre, parce que les différences de mentalité, en fait... l'air conduit à travers une seule opposition, l'opposition des caractères entre la Française et le Britannique. La Française est fâchée, le Britannique un bon vivant.
C'est justement un renversement des clichés, ça,
oui,
non?
Oui, mais bon,
si tu renverses un cliché,
mais tu gardes exactement la même violence dans le cliché, ça reste un cliché. Enfin, toi,
ceux qui se retrouvent à table, à tous en famille, à boire du vin, à discuter, c'est les Anglais, quoi. Mm-hmm. C'est une scène qui se déroule en Angleterre, c'est pas une scène qui se déroule en France.
Non, c'est vrai.
Comme c'est une espèce de... Bon, peut-être pas renversement
c'est
complet.
C'est très habile, tout ça.
Bon, là, je trouve
que les antagonismes ne sont pas clichés, parce que justement, ils s'appesantissent pas d'une manière un peu gimmick là-dessus, et très vite on sent qu'on est dans un contexte plus large avec des problèmes qui dépassent de l'immigration, etc., qui sont les problèmes aussi de l'Union européenne, Angleterre compris. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, moi, comme aspect.
C'est un Anglais, par exemple, qui trompe sa femme, et pas un Français.
Et voilà. Ça, c'est carrément...
Fin de la parenthèse.
Ah ben, c'est subversif, ça.
Je trouve qu'en fait, moi, j'ai trouvé aussi que, voilà, que l'enquête se perdait un peu dans un truc super labyrinthique avec trop de pistes, les personnages secondaires dont on comprend pas très bien, voilà.
Ouais, moi, ça m'a pas, intéressée, j'ai pas réussi.
Moi, je me suis très... Oui, c'est là, m'en suis pas intéressée, en fait, ce qui est un peu embêtant, vous l'admettrez, pour une série policière. Et puis, voilà, effectivement, les acteurs, hein, Clémence Poésie, c'est vraiment un gros problème. Elle a vraiment un jeu à tône presque rigolo de monolithisme.
Mais
on
a
l'impression que la direction d'acteur lui a dit: quoi qu'il arrive, tu écartes les narines, tu es renfermé, tu es en colère et glaciale,
tu
ne dis jamais merci.
Jamais merci.
Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas de saveur dans sa composition. Et voilà, elle a cette diction complètement descendante, atone. Voilà, et on dirait que même jouer la comédie la fatigue, en fait. C'est un peu embêtant. L'anglais est pas mal. Voilà. Mais par ailleurs, j'ai regardé juste les deux premiers épisodes de Bronn pour voir d'où ça venait. Et alors, j'ai quand même eu comme une sorte de révélation. Je me suis dit, j'ai compris ce qu'il vous avait essayé de faire.
Oui.
Toutes les scènes prenaient du sens. C'est-à-dire que, par exemple, Clémence Poésie, elle est tellement workaholic qu'elle se change au boulot, quoi. Voilà, se met en soutif devant tous ses collègues et tout. Et en fait, dans la série française, ça marche pas très bien. On se demande un peu d'où ça vient. Et en fait, celle qui incarne la policière suédoise dans Bronn, ça fait complètement partie de son personnage. Ça fait vraiment partie de sa composition. Enfin, tout prend sens, en fait, tellement elle a du charisme, elle a une subtilité de jeu.
C'est forcément, on a l'impression. Tu as vu aussi les épisodes français avant, du coup. Donc,
oui,
tu avais déjà une série d'informations.
Ouais, moi, j'ai pas trouvé ça parce que j'ai regardé aussi les premiers épisodes. J'ai regardé aussi les épisodes
de
américains.
Bronn. Ah oui.
Et je trouve la version franco-anglaise se défend vraiment pas mal.
Ah bon?
Notamment parce que les questions qu'elle met en avant nous parlent plus dans l'antagonisme, même
culturel.
S'il est effleuré, culturel, alors qu'entre un, à titre personnel, entre un Danois et un Suédois, je ne vois pas fort la différence.
Vert et vert chou, hein.
Donc logiquement, et donc pour une fois, je suis plutôt sceptique par rapport à l'idée des remakes. Et ici, je trouve que ça justifie relativement bien sur le propos. Et Clémence Poésie, moi, je l'ai trouvée plutôt convaincante dans ce rôle un peu mutique et tout. Alors oui, c'est pas révolutionnaire, la série en tant que telle n'est pas révolutionnaire. On peut dire que c'est un peu du sous-millénium dans le personnage un peu androgyne, mutique, viril dans sa féminité. Mais je trouvais qu'il y a une ambiance comme ça un petit peu qui doit aussi beaucoup à cet effet d'urbanisation un peu rachitique, brumeux et mélancolique de Calais, de Douvres, qui sont quand même pas des décors de glamour. Et je trouve que ça donne une ambiance un peu glauque, mais qui correspond à la fois au cinéma de Dominique Moll, qui a signé les premiers épisodes, notamment dans Lemming, je ne sais pas si vous avez vu, qui était un film complètement étrange et aussi marqué par cet univers. Et je trouve qu'on retrouve ça et il le rend plutôt bien. Voilà, c'est entre deux, ce côté no man's land permanent, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la Manche, on est toujours dans un espèce de no man's land comme ça, émotionnel, et je trouvais ça assez réussi. Et c'est marrant de voir la version américaine qui, elle, est dans les clichés, enfin, logiquement, mais répercute, utilise les clichés des différences culturelles entre le Mexique et les États-Unis.
C'est donc ça.
Et c'est un petit côté savoureux parce que c'est plus une voiture de course comme ici, une Porsche dans laquelle elle roule, mais c'est un gros 4x4 pour la flic américaine. Et puis de l'autre côté, c'est évidemment
un vieux taco.
Ouais, c'est le Mexicain type dans des univers colorés, etc. Voilà, mais ça fonctionne pas mal de ce que j'ai vu en tout cas. Et je sais pas, moi, sur la série d'origine, je trouvais l'actrice principale moins crédible, je l'ai trouvée un peu.
Ouais, elle m'a fait rire.
Elle surjouait, je trouvais.
Ah, bah, je sais pas, je trouve qu'elle a une énergie. on voit les codes de départ du personnage, que ça devait être, en fait, avec elle, je trouve. Ouais, je sais pas. Et cette histoire de tueur en série, justicier de la vérité, bilingue, ça vous a pas semblé un peu. Enfin, moi, ça me désintéresse complètement.
Ouais.
Bah, alors, d'Erasmus, pas spécialement, mais voilà.
Et qui téléphone aux journalistes pour le prévenir avec une voix codée. Enfin, vraiment, c'est tous les codes.
Ouais.
Voilà.
Et même le journaliste est fort cliché. Nous ne sommes pas comme ça. Bon, Laurent H.
On prend encore plus de drogue.
Non, ouais.
Moi, je suis vraiment bien rentré dedans, et notamment, en effet, pour l'ambiance et les décors. Enfin, je comprends pas comment on les exploite pas plus, quoi, finalement. Enfin, toute la côte de Pâle, le côté Calais, le côté de l'autre côté Douvres, les falaises, cette espèce d'ambiance semi-industrielle, mais semi-paumée, comme ça. On voit pas une fois... Enfin, c'est une série policière. Il ne voit pas une fois le Quai d'Orsay, ou on ne voit pas une fois Londres. Ouais,
tout à fait. Seulement la province. Ça,
quoi, ouais, vraiment. Ça. Et alors, il y a tout le côté tunnel, le ferry, enfin, toute cette ambiance. Moi, je trouve que ça fonctionne à fond, quoi. Mm-hmm. Et ça imprime vraiment beaucoup sur la série. Et moi, ça m'a complètement fait rentrer dedans. Je trouve que si on ramène la série à son principe de voilà, la rencontre entre deux territoires, bah, c'est a fortiori sur celui-là, sur cet antagonisme-là entre le continent et l'île et l'Angleterre, que ça fonctionne finalement le mieux, je trouve. Mmh. Et sans que la série tombe forcément dans les clichés un peu trop grossiers. Donc ouais, je trouve qu'on a là un truc qu'on n'a pas vraiment exploité. C'est comme... tout ça se passe sous fond de crise de l'euro, d'euro des primes comme ça, alors qui finalement n'a pas été fort mis, n'a pas fort été fictionalisé, quoi. En tout cas, sur un média populaire,
vrai,
comme la série télé.
L'évasion fiscale et tout ça, enfin, il réussit à brasser quand même pas mal de... Il y a pas mal de résonance avec l'actualité au sens large, qui je trouve, crédibilise... la série, je trouve qu'elle lui donne un socle comme ça assez solide, en l'ancrant dans des réalités où on imagine bien les magouilles à tous les échelons des institutions et des milieux d'affaires, les problèmes d'immigration qui sont traités de manière assez crue aussi. Voilà, je trouve, avec sans doute en effet certains qui doivent en profiter, exploiter le bazar. Bon, comme on l'a dit, il y a des défauts aussi dans la série, certains trucs sont un peu moins crédibles, mais je trouve que dans l'ensemble, pour une série qui est à mon sens autant française
qu'anglaise
dans le ton, dans le style, ben c'est plutôt réussi.
Très bien, mais il faudrait vraiment qu'ils engagent un dialoguiste.
Oui, mais partout, dans toutes les séries françaises, même dans Les Revenants.
C'est pas une série française.
Oui, la série où apparaissent des Français. Parce que... voilà. Mais tout autre chose, qu'est-ce qu'on pense de Jeanne Balibar ? Est-ce qu'on ne la remettrait pas dans le formol avec Fanny Ardant et ses copines ?
C'est vrai qu'elle se Fanny Ardantise
complètement.
À grande vitesse.
Elle sent bourgeoise méchamment.
Mais c'est la seule qui sonne un peu juste, par contre, enfin, je trouve.
En tout cas, dans la version doublée, pas tellement.
Non.
En post-production, non.
Elle signe aussi la chanson du générique.
Mais non, c'est Charlotte Gainsbourg.
Ah bon?
On y revient. Attends, j'allais faire un super lien entre l'infomaniaque et...
Rambobine, mais je te fais chier,
voilà.
C'était Balibar.
Ce sera coupé au montage. 5 sur 10 pour Tunnel.
Sinon, Clémence Poésy, elle a joué dans Harry Potter.
Oui, mais oui, c'est vrai.
Je voulais le dire. 8.
8.
Ouais, ouais, soyons fous.
Zaline. Oh, 5, Myriam, je suis d'accord.
Moi, 7.
Bon, eh bien, on parlait donc de Tunnel, qui sera diffusé sur BTV à partir du 19 janvier, si je ne m'abuse. Sur lequel on s'est arrêté cette fois, c'est celui de Sharon Jones et de ses Dap Kings, le bien nommé Give the People What They Want. Et c'est un petit bonheur soul et funky, l'album anti-crise absolue, chromé, rutilant, bien en chair, avec un bon gros sourire aux lèvres. On se demande comment un machin pareil a pu éclore dans une époque pareille, mais je ne m'en plaindrai pas. Ça convoque évidemment plein de références du passé. Moi, ça ne me dérange pas, mais on en... on abordera, j'imagine, cette question du vintage. Je trouve que ça ne sonne pas daté pour autant. Sur Give the People What They Want, il y a 10 morceaux. Mais non, je trouve pas que ça sonne vieux.
Non, ça sonne. Faut ressusciter Aretha Franklin pour que ça sonne vieux.
Mais ouais, 10 morceaux, presque autant de singles. J'ai pas encore déterminé lequel était mon petit favori. Laurent, du haut de ta chaise en cuir de direction des pages musique, tu n'as pas l'air convaincu. Alors que c'est toi qui as mis ce disque à l'agenda.
Oui, toujours en toute collégialité, n'est-ce pas?
J'ai l'impression que ça m'a été imposé.
Non, pas du tout. Non, mais nous sommes début janvier, il n'y a pas encore une grosse actualité musicale. C'est Cela dit, ce disque était donc prêt depuis le mois d'août, il devait sortir au mois d'août. Sharon Jones a chopé un cancer, s'en est remise entre-temps, mais donc du coup ça a reporté la sortie du disque, qui sort donc aujourd'hui dans une période assez creuse. C'est pas plus mal pour qu'il
pour
puisse...
Pour la visibilité.
Voilà, exactement, tout à fait. Parce que malgré tout, c'est en effet un
bon disque.
Un chouette disque.
Ah ouais.
Un chouette disque.
C'est chouette, c'est le mot.
Oui. C'est pas seulement. Ça ne convoque pas seulement des deux trois éléments du passé. C'est complètement vintage et rétro.
Ah oui, j'ai pas dit
alors
deux
après,
trois éléments.
Voilà.
C'est mimétique, hein.
C'est ce complètement mimétique, oui.
Mais je trouve que ça, on ne sent pas l'imitation, quoi. On a l'impression que on a exhumé un truc, mais on ne sent pas qu'on se force à faire comme.
Non, parce qu'il y a une réelle authenticité derrière. Je pense que Sharon Jones. Alors, on dit toujours oui, mais elle a vécu le truc. Bah non,
elle a
non,
Sharon Jones.
Oui, mais je veux dire, Sharon Jones, elle est née en 56, je crois, 58, enfin, dans les années 60, elle avait 10 ans, quoi. Je veux dire, elle n'était pas à danser, à faire les choristes de James Brown, je veux dire.
Ouais.
Voilà. Cela étant dit, ça ne retire rien à la crédibilité de sa démarche. Je la trouve vraiment très authentique et elle est complètement crédible dans ce truc-là. On sent que c'est vraiment son truc, que ça vient des tripes. Donc moi, je lui retire vraiment pas ça, loin de là. Et finalement, aujourd'hui, voilà, on peut lancer le débat hein, sur l'intérêt de sortir des disques comme ça qui auraient pu sortir il y a 40 ans. Après, on a surtout l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas tellement d'être neuf, c'est surtout d'être authentique.
Mm-hmm.
Et à ce niveau-là, je trouve que c'est un disque très réussi.
C'est vraiment bien ce que tu viens de dire.
Oui.
Ce sera mis en exergue sur la pochette du podcast.
The important is not to be new, this is to be true.
Waouh! C'est de toi?
Oui.
Oh, c'est beau ça.
Bientôt sur tous vos t-shirts.
Oh, mais oui! Bon, Isaline.
Mais moi, je dois confesser que je ne connaissais pas Sharon Jones.
Mal.
Voilà. Confession du jour, il y a quelque chose, je trouve, de très étrange du coup à mettre un disque comme ça dans sa planète. Enfin, je connaissais rien du tout, donc effectivement, j'ai été un peu reportée dans le passé, carrément même. Hein, il y a vraiment, je trouve, un grain comme ça, bluesy, une énergie, un sentiment de puissance, un feu d'artifice vraiment qui a l'air de venir des années 70, des années 80. Et en même temps, ce que dit Laurent, enfin voilà, ça se sent quoi. C'est vrai que j'ai pas pris exactement le temps de lire. Et de comprendre les paroles, mais en fait je disais une interview de Sharon Jones où elle disait que voilà, que pour elle c'était vraiment le plus important, c'était vraiment d'avoir des chansons qui racontaient des histoires, et donc elle critiquait beaucoup les démarches actuelles de en hip-hop ou en pop, et des chansons qui disaient rien du tout. Et je trouve que même sans avoir pris le temps de savoir vraiment ce qu'elle racontait, on sent que chaque chanson, et voilà, il y a une histoire, il y a une vie derrière. Et puis voilà, elle le disait d'ailleurs, si ça raconte pas une histoire, moi je ne chante pas. Et c'est pas pour ça que c'est plombé, parce qu'on sait bien que Sharon Jones, enfin voilà, je me suis renseignée sur elle, elle a quand même pas mal morflé dans la vie. Voilà, c'est pas une nana qui a eu une vie facile, elle a été gardienne de prison, elle vient de se remettre d'un cancer. Et quelque part, je sais pas dans quelle mesure, mais ça nourrit quand même pas sa musique, voilà, qui a vraiment une âme, une profondeur. Et voilà, effectivement, quelqu'un qui a une vénération pour Aretha Franklin, ça se sent de A à Z. Elle a appris à jouer et chanter comme elle. Et elle raconte par exemple qu'elle était en France et qu'on lui donnait du Sharon Jones, Queen of Soul, quoi. Et elle dit qu'elle s'est super emportée en disant mais qu'est-ce qui va pas avec vous? C'est Aretha Franklin, la Queen of Soul, je ne veux plus jamais que vous m'appeliez comme ça. Donc il y a quand même aussi, elle est consciente aussi de ce qu'elle lui doit, et elle n'est pas dans une démarche complètement mimétique. Donc voilà, c'est peut-être un peu bateau à dire, moi je trouve que c'est une musique profondément humaine qui sent voilà, l'amertume de la vie et qui brasse tout ça en fait aussi dans un son à l'énergie assez incroyable.
Et super dansant.
Pardon ?
Super dansant.
Super dansant et quelque chose d'assez cathartique et d'assez généreusement cathartique mm-hmm. pour qu'on puisse s'y retrouver aussi. Donc voilà, un bel hommage au label
c'est
Monto,
très beau, c'est
Motown
ce que tu dis. Eternal. Généreusement ouais. cathartique. Laurent, il va falloir faire mieux.
On va essayer. Non, c'est sûr que l'album, il n'a pas été fabriqué dans le département recherche et développement de l'industrie musicale.
C'est sûr.
Ça, c'est évident. Maintenant, pour compléter un petit peu, si on veut analyser un peu les raisons du succès, c'est vrai que c'est typiquement l'album qu'on ne peut pas ne pas aimer.
Ben oui.
Alors, pourquoi ? Parce que d'un côté, il renvoie un peu à toute la tradition de la musique black. Et donc, il charrie avec lui toutes les souffrances de la communauté, avec ses hauts et ses bas, etc. Et donc, comme le jazz ou le blues peuvent le faire. Et donc, il y a déjà cette dimension un petit peu mythologique qu'elle draine et dont elle se fait la représentante, qui la rend sympathique et qui rend cette musique assez convaincante. D'autant qu'elle est authentique dans cette démarche, comme on l'a dit. Puis il y a la deuxième chose, peut-être comme des Janelle Monáe, d'Aloe Black, etc. C'est un petit peu, tu l'as mentionné au début, des albums un peu antidote mm-hmm. à la crise, au formatage aussi.
Même ne fût que physique, quoi.
Voilà, tout ouais, à fait.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a de c'est quand même extrêmement formaté comme disque.
Mais
ça correspond à un canon.
Mais comme tu disais, il vaut parfois mieux être dans l'authenticité. Quitte à renouer avec des recettes déjà usées, en tout cas bien retravaillées, plutôt que d'essayer d'être dans la nouveauté à tout prix et de faire n'importe quoi dans cette vanne-là. Et ici, il y a quelque chose d'un peu rassurant aussi à retrouver ces ambiances chaudes, cette couleur, ces couleurs. Et c'est en ça que c'est un petit peu l'antidote à cette fuite en avant de toujours la nouveauté, de tout mélanger, brasser tout, parce que il faut être neuf, quoi.
Le problème, c'est qu'il n'y a plus grand-chose de neuf aujourd'hui, ouais. du coup, et qu'on a
qui
l'impression...
Qui fait quelque chose de neuf aujourd'hui ?
C'est une excellente question. Je n'ai pas forcément énormément de réponses à donner, mais c'est vrai qu'on en revient quasi à chaque fois, à chaque podcast sur cette question-là, mais on est surtout en train de recycler pour l'instant. Alors, quitte à recycler, autant en effet que ce soit par quelqu'un comme Sharon Jones qui a le don et l'autorité pour ça.
Que par les scopes, par exemple.
Par exemple. Mais est-il forcément moins crédible que Sharon Jones sur ce créneau-là ? Je suis pas forcément sûr. Mmh.
Sur le créneau soul, oui, je pense qu'il est.
Oui, certes.
Un bon 8 sur 10, moi, pour Give the People What They Want.
Oui, pareil, moi.
Oui, aussi. Ouais.
Oui, 7 pour le côté groovy.
Et je veux juste ajouter que c'est vraiment le genre de musique qui s'écoute surtout en live et que cette dame vient
annoncer. Mais c'est
une
ce que j'allais
que
dire.
Oh, pardon, excuse-moi, je foire ta...
ma transition, ma chute. Ce sera le 18 mai, je pense. C'est pas ça ?
C'est ça.
C'est ça. Alors enfin, le livre de la semaine, le fleuve de la semaine, la brique de la semaine, c'est celui de Donat Tartt, le Chardonneret. C'est l'événement littéraire de la rentrée de janvier, un tout gros morceau, pas seulement à cause de son volume très conséquent. Bref, rappel du pédigré de l'auteur. Et il sera court parce qu'en effet, elle n'a écrit visiblement que 3 livres. Donat Tartt, c'est celle qui a commis Le Maître des Illusions, 93, un livre que je pense qu'on a tous lu à l'époque, ou à peu près.
Non
Laurent me dit non. Elle a aussi publié Le Petit Copain en 2003, que je n'ai pas lu. Et là, elle est de retour après 10 ans avec 800 pages. Éblouissante. Et oui, l'histoire de Théo, un petit garçon qui deviendra forcément ado et adulte, dont on va suivre la destinée depuis le jour funeste où il a survécu à une explosion dans le musée qu'il visitait avec sa mère chérie, qui est morte d'ailleurs dans l'attentat. Théo qui sortira du musée avec un tableau sous le bras, une toile de maître minuscule qui représente un petit oiseau enchaîné. C'est le Chardonneret du peintre flamand Karel Fabritius, élève de Rembrandt. Il va s'en passer des choses dans sa vie à cause de ce tableau, mais pas seulement. On va assister à l'éclosion d'une personnalité, à l'installation d'un spleen, d'un mal de vivre, pas mal de petits bonheurs aussi. C'est un livre traversé par plein de thèmes fondamentaux, l'amour, l'amitié, la famille, la solitude, les petits arrangements avec la morale et sa morale pour trouver des raisons et des façons de tenir bon en ce bas monde. Et puis l'art aussi. D'ailleurs, j'ai retenu particulièrement une phrase mise en exergue au début d'un chapitre qui résume à mon sens tout ce qui l'entoure. C'est une citation de Nietzsche qui dit « L'art est rien que l'art, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité ». Voilà, Isaline, alors il paraît que tu nous écris tout un dossier sur Donat Tartt qui va sortir dans le magazine de vendredi. Tu nous fais un bref résumé de tout ça ?
Ouais, bah, Donatarte, c'est vrai que c'était un roman qui était quand même super attendu, puisque, effectivement, tu l'as dit, mais c'est son seulement troisième roman en plus de 20 ans d'écriture, hein, puisqu'elle en commet un tous les 10 ou 12 ans. C'est un roman qui a quand même été annoncé et reporté à plusieurs reprises, donc il y avait quand même tout un buzz derrière. C'est une auteure très très lente, très perfectionniste, qui revendique beaucoup de solitude et dont on sait très peu de choses. Donc il y a vraiment une espèce de culte aux États-Unis qui est peut-être un peu moins le cas en France, mais autour surtout de son tout premier, hein, Le Maître des Illusions.
Ouais.
Vraiment, ça date de 1992, une espèce de romance comme ça, gothique, à la mystique platonicienne, voilà, qui était un peu aussi liée au mouvement littéraire du Brad Pack avec Bret Easton Ellis, à qui elle dédicaçait le livre et qui a fait mousser un peu toute l'affaire. Et c'est vraiment devenu un des romans phares de ce qu'on appelle les 90s, donc l'époque qui va de 1989 au 11 septembre, en fait, aux États-Unis. Alors, je trouve qu'elle revient très, très en forme. Hein. C'est un roman complètement...
Et super mature par rapport à ce qu'elle a commis avant.
Oui, complètement. Mais c'est vraiment un récit très, très solide, très éblouissant. Un grand roman d'apprentissage bâti un peu à l'ancienne, hein, où on suit assez classiquement, tu l'as dit, l'évolution d'un jeune adolescent jusqu'à l'âge adulte. Alors, les critiques américains parlent assez systématiquement de Dickens. Hein, on compare beaucoup à Dickens, ce qui sera peut-être un peu moins le cas en France, que Dickens est moins célébré en France qu'aux États-Unis. Mais je trouve que c'est voilà, le grand roman de la rentrée. C'est un roman qui va réconcilier beaucoup de monde, je crois, parce qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture. Je trouverais vraiment un niveau de lecture consommation, un niveau plaisir évident, comme souvent chez les Américains, mais Donatarte est une extrêmement bonne scénariste. Il y a un plaisir évident à se laisser complètement et sciemment manipuler par elle. À la BBC, elle disait « Le voyage dans lequel je veux embarquer le lecteur est toujours le voyage que j'aimais le plus quand je lisais enfant. Cette interrogation galopante et joyeuse, que va-t-il bien pouvoir se passer après ?» Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Il y a quand même, c'est un thriller, hein, c'est pas un suspense qui va à 180 à l'heure, mais c'est un suspense comme ça qui prend son temps, qui est une ligne de fond, une attente un peu lancinante. Et je trouve qu'il y a tout simplement, au premier degré, une jubilation, une envie de savoir, une vitesse, un envol dans ce bouquin. Et puis, dans le même temps, je trouve que c'est quand même un livre qui s'est aussi installé une densité, une lenteur, une vraie complexité de la construction, une répétition des motifs, une vraie maîtrise de la langue, qui est très imagée, très métaphorique.
Et bravo à la traductrice.
Ouais, Edith Sunkin, qui est vraiment...
C'est incroyable.
Effectivement, qui l'a fait en très très peu de temps en plus, puisque Plon lui a mis la pression pour le sortir assez vite après les États-Unis. Et c'est, je trouve, aussi cette densité qui fait que le roman reste dans la tête et dans les émotions, bien au-delà de la lecture. Vraiment un étrange mélange, je dirais, de vitesse et de densité.
Et nos deux Laurent n'ont pas terminé le bouquin. Mal! Parce qu'il est très long.
Ah bien, il est très long.
Ah oui, ça peut se comprendre.
Enfin, je vais le terminer. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, Isaline, on rentre assez facilement dedans, malgré la densité du truc et de ce qui se passe.
Mais déjà, dès l'événement fondateur de l'explosion...
On est vraiment dans... Moi, je n'ai pas une grande expertise en littérature, encore moins anglo-saxonne, mais on est vraiment dans ces genres de grands romans américains comme ça... Moi, ça me faisait penser à Franzen aussi. Une excellente amie m'a offert Freedom. J'avais l'impression de me retrouver un peu là-dedans, quoi, dans une espèce de grand récit qui entrecroise plein de choses, qui vous emmène un peu partout. Et toujours
les Américains
avec
l'obsession du grand roman américain.
Oui, mais c'est vraiment ça. Mais avec une limpidité, une aisance assez éblouissante. Et tout en effet, en densifiant le truc, enfin, c'est jamais... Il y a plein de passages qui sont très, très, très chargés. Enfin, on n'est pas du tout dans le truc... je pensais aussi au livre qu'on avait lu à la rentrée de Karine Tuile. Qui essayait aussi de
brasser... De faire son grand roman.
Voilà, et qui elle, se plantait, parce qu'elle n'arrivait pas à densifier justement son écriture et son récit. Ici, par contre, Donatarte, elle y arrive à merveille, quoi.
Mais enfin voilà, je prends des pincettes puisque, comme tu dis, j'ai pas terminé, mais c'est vrai que de ce qu'on lit, c'est ce qui frappe, c'est ce propre aussi aux auteurs américains, c'est ce mélange de païen et de sacré. À la fois il y a le païen dans la faculté à prendre le lecteur, c'est ce côté thriller, enfin on est tenu en haleine du début à la fin, et puis il y a ce côté sacré parce qu'ils arrivent à insuffler à travers une force narrative, par des petits détails, à travailler sur le destin, à convoquer une série de questionnements comme ça qui déploient leurs ailes et qui sont évidemment vraiment très, très impressionnant. Ma seule petite réserve ici, mais bon, il faut bien lui chercher des poux quelque part, c'est, je me demande pourquoi elle a pris cette croûte de Carole Fabricius.
Oui, qui est vraiment moche.
Point de départ. Parce qu'on a beau maintenant en faire une expo en même temps dans une galerie, en même temps que le lancement du bouquin à New York, etc. Et maintenant, tout le monde s'extasie devant cette peinture qui est au cœur du livre. Il n'y a rien à faire, c'est une croûte. Quoi.
Mais oui,
mais en fait, ça lui sert quand même à... Bon, alors on peut discuter de la peinture, mais ça lui sert quand même parce que cette peinture a une histoire assez incroyable, qui est très romanesque à la base. C'est-à-dire qu'elle a quand même, au XVIIe siècle, il y a une très grosse explosion à Delft d'une poudrière, et c'est une des rares peintures qui a réchappé à l'incendie de l'atelier de Carole Fabricius. Il en est d'ailleurs mort, le pauvre. Et donc, je trouve que c'est quand même un point de départ absolument génial, c'est-à-dire qu'elle récupère la peinture et qu'elle la met une nouvelle fois au cœur d'une explosion. Et ce qui lui permet quand même de faire aussi un lien avec le 11 septembre assez souterrain, je trouve ça quand même un roman qui, parce qu'elle met en scène un attentat terroriste.
Oui, et finalement, on ne s'est pas creusé. Hein,
c'est quand même, je trouve, un roman qui explore assez bien la paranoïa, les syndromes post-traumatiques de l'Amérique, tout en parlant jamais frontalement, et je trouve ça assez élégant. Alors voilà, c'est vraiment, comme on disait, un très très grand roman américain, parce que c'est vraiment une quête de sens au sens très américain du terme, avec cette grande idée aussi de la table rase, hein, Théo, c'était vraiment un truc... voilà, qui est obsédé par l'idée de la table rase, de la réinvention de soi, qui sont quand même des grandes obsessions américaines. Et cette idée aussi, voilà, qui est là tout le temps en filigrane du livre, de la rédemption, de l'impermanence des choses aussi. Hein, cette idée que, voilà, on veut imiter le passé en même temps faire en sorte qu'il soit différent. Et je trouve, voilà, qu'elle sert tous ces grands thèmes à travers des...
la méticulosité qui finit par rendre le réel plus réel qu'il n'est. Donc on le ressent parfois avec une force qui dépasse la réalité elle-même. Et ça, je trouve, c'est
oui, c'est très vrai, c'est assez puissant.
Parfois jusqu'à l'invraisemblance, parce que la maturité dont fait preuve le garçon Théo au début, alors qu'il n'a que 13 ans, c'est une maturité qui paraît improbable dans le chef d'un enfant de cet âge-là. Mais elle arrive à nous à grandir comme si elle mettait sous un microscope des sentiments et les émotions que ressent le personnage et à en décupler la force. Et je trouve que du coup, ça imprègne d'autant plus le lecteur parce qu'il y a une espèce d'analyse intrinsèque comme ça des émotions qui font la force du bouquin. Ouais. Quoi,
oui, et c'est quand même. Alors oui, il a une forme de maturité, mais enfin, moi, il m'a fait penser parfois quand même à Holden Caulfield de l'Attrape-cœur, c'est-à-dire quand même, elle met en scène des adolescents. Et c'est pas la première fois, voilà, qui sont dans des contextes qui les dépassent, avec une vraie initiation derrière, un côté un peu mystique. Alors là, ça peut être un peu le sens caché des œuvres d'art. Il y a quelque chose de ça ici aussi. Et voilà, qui dit quelque chose quand même, voilà, de vrai sur la désillusion aussi, voilà, de dans le fait de grandir et de. Et je trouve par ailleurs que encore une petite chose, c'est pas vraiment un livre qui est expérimental sur le plan de la forme. Ça, c'est vraiment tout le contraire. Hein, c'est très très classique. Et à la fois, c'est un récit qui est constamment surprenant. Je trouve que Donna Tartt, elle fait un usage du hasard et de la contingence, comme ça, assez, assez majestueux dans le bouquin. Il y a ce moment comme ça où Théo est de retour à New York et il ne sait pas trop où aller. Il croise Mr. Barbour, un père d'un de ses enfants qui l'a recueilli. Et il se trouve qu'il ne le reconnaît pas alors qu'il a vécu avec
le prend pour un clochard.
Et bien, en fait, on apprend à ce moment-là, donc il dit, ben voilà, il n'a pas dû prendre son médicament. Et en fait, on se dit, ah oui, 300 pages plus haut, c'est-à-dire l'équivalent d'un roman, hein, Donna Tartt nous avait dit qu'effectivement, ce père était bipolaire et que donc, il devait prendre des médicaments. Et c'est voilà, ça va être juste signalé à ce moment-là. Et elle en fait un usage complètement parfait à ce moment-là.
Oh, c'est beaucoup trop
brillant. Qui relance complètement l'intrigue, parce qu'à ce moment-là, il se dit, voilà, je ne peux pas retourner chez Barbour, il ne me reconnaît pas, donc je vais... on ne sait pas du tout ce qu'il va faire à ce moment-là, quoi, alors qu'elle aurait pu le laisser... Enfin, faire que le récit aille dans le sens qu'on attendait, quoi. Et elle relance comme ça constamment son intrigue avec des toutes petites touches de hasard et de contingence, enfin, qu'elle veut faire passer pour ça et qui sont en fait une sorte de démonstration magistrale de construction et d'intelligence.
Oui, c'est incroyablement brillant.
Mais c'est 10 ans d'écriture, hein, c'est quand même...
Oui, c'est un vrai sacerdoce.
Heureusement qu'il y a des petites intrigues. Hein.
D'ailleurs, moi je trouve ça très déprimant, en fait, puisque ça donne envie d'arrêter d'écrire. parce qu'on n'aura jamais le courage de s'atteler à une tâche pareille. Et de faire
mais il paraît qu'elle est très insatisfaite hein, quand même de ses livres. Donc,
Oui, voilà. Tant mieux au moins. ça la sauve un peu. 9 sur 10, moi, pour ce Chardonneret. Donc Laurent,
je vais attendre
les deux Laurent ne vont pas côté.
Bah 9, moi j'ai mis 9, oui.
Le Chardonneret de Donatarte est donc publié chez Plon. Un rapide tour de table de nos coups de cœur pour clôturer cette émission. Moi, ça ira vite. C'est un vieux bouquin que j'ai acheté le week-end dernier à l'aéroport de Phnom Penh. Ça, c'est la frime. Mais pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'il s'appelle La drôle de vie des expatriés au Cambodge. C'est d'un journaliste français qui s'appelle Frédéric Amat. Donc je pensais en apprendre sur le Cambodge. Et en fait, on apprend sur les expatriés en général. C'est un livre qui peut s'adresser à tout le monde et intéresser tout le monde. Les couples mixtes, par exemple, ou simplement les voyageurs, les routards. Tous les gens qui sont amenés à se décentrer de leur prisme ethnocentrique une fois de temps en temps. C'est super drôle. Ça raconte pourquoi, en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi les expatriés en Asie sont malheureux. Quelles sont les différences culturelles. En fait, ça parle surtout du décalage permanent du Lost in Translation qu'on ressent tous quelque part quand on perd nos repères. C'est très bien, ça s'appelle donc La drôle de vie des expatriés au Cambodge, c'est très bien écrit et c'est publié chez la bien nommée Tuk Tuk Édition. Laurent H.
C'est un disque de hip-hop.
Oh.
Nous allons parler cette semaine. Il y a John Wayne qui vient à l'ancienne Belgique à la fin du mois, je pense que c'est vers le 20 janvier.
John Wayne.
Oui, John Wayne, qui est en fait, si c'est authentique et vrai,
avec
c'est un
cheval,
descendant du véritable...
John Wayne.
Non, pas John Wayne. Non. John Wayne qui tirait lui-même son pseudo, parce que c'est un pseudo, d'un militaire américain du 17e, 18e siècle.
Ah ouais.
Voilà. Donc John Wayne est le vrai... John Wayne. Et donc c'est un rappeur blanc de la côte ouest qui a un peu tourné autour des milieux Flying Lotus et tout le label Brain Feeder. Enfin, donc du hip-hop mais un peu expérimental, un peu granuleux, qui gratte un peu, qui est un peu qui va un peu chercher plus loin. Et donc il a longtemps traîné dans ce milieu-là. Là, il a sorti son premier album, je pense, c'est Rap Album Number One. C'est le titre.
Ah ouais.
Et il est vraiment entre ces tendances assez sombres, assez torturées, déglinguées, et un truc beaucoup plus accessible. C'est un petit disque qui fait quoi ? Il fait une trentaine de minutes, je pense, 30-40 minutes. Et voilà, il y a plein d'idées. C'est assez... moi, ça me faisait... ça me fait parfois penser au Wu-Tang, par exemple, sur certaines ambiances un peu sombres. Et donc, ce garçon sera, comme je l'ai dit, à l'ancienne Belgique, et je crois que ça vaudra le coup.
Ok, et il sera quand ?
Le 20 janvier.
Très bien.
À confirmer.
Isaline a un petit coup de cœur.
Bah oui, une double actualité pour ce cinéaste fabuleux qu'est Éric Rohmer. Parce qu'il y a un recueil de nouvelles inédites qui sort. Là, c'est celui de 8 nouvelles inédites qui ont été écrites entre 1940 et 1950. Dont on se rappellera qu'en fait, Éric Rohmer n'était pas avant tout un cinéphile, mais plutôt il avait la volonté d'écrire. Il faut savoir qu'elles étaient inédites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait proposé ce recueil de nouvelles à Gaston Gallimard qui lui avait dit mais c'est pas du tout moderne, je peux pas publier ça, c'est pas possible. Et donc tout désemparé de son échec, il s'était tourné vers le cinéma en adaptant justement ces nouvelles. Alors c'est des nouvelles qui donneront naissance à ces films, ces contes moraux, donc Ma nuit chez Maud, La collectionneuse, Le genou de Claire, ce qu'il appelait ses contes-films, donc un espèce de genre à la frontière entre littérature et cinéma. Alors ça s'appelle Friponne de porcelaine, je trouve que c'est
mignon. C'est un peu toi ça, les amis.
Mais qui dit un peu toute la sophistication des images et des mots chez Éric Rohmer. Et c'est Friponne de porcelaine, le titre non retenu du film qui allait devenir Pauline à la plage. Voilà, et donc ça vaut absolument le coup. Et signaler aussi la parution au même moment chez Stock aussi, j'ai oublié de le lire, c'était aux éditions Stock, d'une grosse biographie, la première grosse biographie de Maurice Scherrer alias Éric Rohmer. Grand amoureux de la beauté sous toutes ses formes, et ça c'est écrit par Antoine Debac, biographe de Truffaut et Godard, et Noël Herp. Donc Friponne de porcelaine et Éric Rohmer.
Ça vole très haut, c'est top.
Et enfin, le chef.
On va redescendre tout de suite, parce que moi je vais vous parler du Rohmer des égouts, c'est-à-dire Rézère. dont la monographie est sortie en décembre et que je propose en séance de rattrapage avec une biographie de Jean-Marc Parisis. Leur réserve,
c'est ton père, ici.
Aucun lien.
On connaît le personnage, hein, décédé il y a déjà un petit bout de temps, un peu tôt, parce qu'il avait 42 ans, et qui a régalé les lecteurs de Harakiri, mais aussi des grands quotidiens français, de ses personnages et de ses strips un peu cracra, et qui dénonçaient déjà à l'époque, et c'est ça qui ressort ici, le côté un peu visionnaire, parce que tant l'écologie que la mainmise du capitalisme, etc., il les passait déjà à la moulinette, notamment avec son gros dégueulasse, qui est son personnage un peu fétiche, puisque c'est ce bonhomme qui se trimbalait en slip pas très net, en famille comme dans la rue, et qui balançait ses vannes, qui étaient souvent des vannes assez bien vues, à la tête de la bien-pensance. Et ici, on voit à la fois ce côté visionnaire, mais aussi l'audace du bonhomme qui dessinait l'air de rien très très bien, et qui arrivait à dire des choses vraiment très dures, mais en les emballant dans une forme hilarante, quoi. Et donc je conseille, parce que ça débouche un peu et ça fait du bien.
Et donc ça s'appelle comment, rappelle-nous ?
Réserve, tout simplement, de Jean-Marc Parisis.
D'accord. Et ben voilà, c'est déjà fini, hein, c'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir écoutés. Si l'émission vous a plu, faites-le savoir à nous déjà, parce que c'est gentil, mais aussi surtout aux autres. Vous êtes des messagers, des relayeurs de bonnes paroles, et sans vous, nous ne serions pas là, en tout cas pas devant ce micro. N'oubliez pas de nous lire aussi dans Focus Vif toutes les semaines avec le Vif l'Express. Le Vif l'Express. Salut à l'équipe et merci infiniment à elle de lire, écouter, regarder tout ça. En plus de tout le reste, bon début d'année à tout le monde. À très vite. Salut.
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 Isaline.
Ben oui, au revoir.